5h, 5h30.
Bonjour chez vous.
Avec EMCI TV.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Bonjour chez vous. En ce lundi, nous commençons une nouvelle semaine ensemble en équipe EMCI. On a des très belles émissions à vous proposer cette semaine et pour aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction générationnelle. Accède à la bénédiction générationnelle, un thème que j'aborde aujourd'hui avec Aurélie et Monsieur Frank Poulin.
Hello.
Coucou Nadine.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Bon lundi.
Bon lundi.
Pourquoi Aurélie, tu sembles surprise un peu de...
Oui, je pense que Nadine me comprend.
Je crois.
Il y a des trucs sur ce plateau.
En effet.
Okay.
Mais, vas-y Nadine.
Mais elles sont prêtes pour le lundi quand même.
On est prêtes pour le
lundi.
C'est
un bon thème.
C'est un bon thème. Et aujourd'hui, on va parler de la bénédiction générationnelle. On va vous encourager peut-être d'être le premier chrétien de votre famille.
Allez,
vous êtes la personne qu'il faut pour faire rentrer cette bénédiction générationnelle, ce salut qui va rentrer dans votre famille à travers vous. Comme Abraham qui a tracé une nouvelle lignée pour sa famille à travers son alliance avec Dieu. Vous aussi, alors que vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, nous croyons que ces bénédictions sont réservées pour vous et votre famille. Et nous aurons une rubrique, une capsule réponse d'experts avec le pasteur Christine Bemier en deuxième partie d'émission. Elle va répondre à une question sur la parole de Dieu. Comment comprendre Galates 3:13, ce verset qui nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction? Elle va répondre à ça tout à l'heure. Et Aurélie, tu as un témoignage.
Oui, un témoignage de Laetitia qui va nous dire comment elle a persisté dans le combat de la foi et les bienfaits que cela a eu sur son mariage.
Oh, un très très beau témoignage qu'on va voir en dernière partie d'émission. Et avant ça, on va commencer avec toi, Frank. Tu es prêt?
Quasiment.
C'est bien, c'est déjà bien.
Wow.
C'est déjà bien. On commence.
Bien.
On commence avec Frank, c'est lundi. Sois indulgent. On commence avec Frank dans la pensée du jour.
On voit que Dieu est un Dieu qui pense de manière générationnelle. Et ça, on le voit beaucoup, surtout dans l'Ancien Testament, mais ça ne veut pas dire que le principe n'est pas là dans le Nouveau et qu'il ne doit pas faire partie de notre vie aujourd'hui, parce que c'est une réalité qui est là. Et je voulais qu'on puisse voir juste deux versets par rapport à ça concernant les générations. Le but de ma pensée du jour est un peu de vous étirer à ce niveau-là, parce que le Seigneur le fait aussi dans ma propre vie. Il veut nous amener à penser comme lui, il pense. Et Genèse 17, verset 19, justement, Nadine en a parlé rapidement, où est-ce que ça nous parle que la descendance allait être bénie à travers de Isaac. La parole dit au verset 19, Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Exode 12, verset 14, ici, Dieu veut que les générations puissent se rappeler du miracle, de la délivrance qu'il a opéré vis-à-vis du Pharaon et de l'Égypte. Il dit au verset 14, « Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Et aujourd'hui, on pense tellement dans l'immédiat. Moi, ma femme, mon mari... Peut-être, ben je vais dire souvent, les enfants vont être dans la réflexion des parents, mais par la suite, souvent, ça va s'arrêter là. Mm-hmm. On est tellement moins, même dans les petits-enfants, et encore moins dans les arrière-petits-enfants, mais pourtant, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, en grande partie. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi, je suis venu au Seigneur. C'est parce que, en fait, Dieu est dans cette réflexion-là. Et lorsque la parole est prêchée et lorsque le dépôt de la foi est mis dans le cœur d'un enfant, ben la lignée va s'accrocher au Seigneur de génération en génération et c'est quelque chose de très, très fort. Quand j'y pense aujourd'hui, personnellement, le plus grand héritage que j'ai, c'est vraiment la foi que j'ai reçue de la part de mes parents. Je suis un enfant de Dieu, je vais le dire comme ça, né de nouveau, de quatrième génération. Mes arrière-grands-parents ont été sauvés à travers de leurs enfants. C'est-à-dire que mes grands-parents sont venus au Seigneur dans les années 1950 au Québec, alors que c'était le catholicisme qui était là partout. C'était la réalité. Ils se sont retrouvés dans le sous-sol d'une toute petite maison, dans la ville où ils habitaient. C'était la seule, à ma connaissance, église évangélique qui était là, c'est-à-dire qui prêchait la nouvelle naissance, qui prêchait le salut par la foi, qui prêchait le baptême dans le Saint-Esprit, qui prêchait que Jésus est encore vivant, qu'il guérit, qu'il restaure encore, etc. Et tout ça, ils se sont retrouvés dans cette maison, et puis ils ont entendu la parole prêchée, et ils sont ressortis de là, ils se sont dit, ça doit véritablement être, pour eux, ils l'ont dit comme ça, la religion des apôtres. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient vécu quelque chose qu'ils n'avaient vécu nulle part ailleurs. La présence de Dieu était là, c'était palpable. Ils ont reçu la parole qui a été prêchée, et quelques semaines plus tard, ils se sont donnés au Seigneur, et puis ils ont conduit leurs parents au Seigneur, qui par la suite a eu un impact sur leur famille en général. Wow. Ils ont amené leurs frères et sœurs au Seigneur. Mes parents, mon père a été évidemment élevé dans les voies du Seigneur et il est devenu lui-même prédicateur. Mon grand-père a été pasteur aussi. Donc, dans le ministère, il y a des générations qui sont là dans ma famille. Et quand j'y pense aujourd'hui, c'est un tel héritage. C'est énorme. De plus en plus que je vieillis, de plus en plus j'y pense, les filles, je me dis, mais c'est une telle grâce d'avoir grandi dans un tel milieu avec des personnes de foi qui croient toute la parole, qui croient la vérité de la parole, pas une religion. Ils sont pas dans une religion. Ils sont véritablement dans cette relation avec Dieu authentique qui s'est transmise d'une génération à une autre. Et ça, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des oncles qui ont été pasteurs, qui le sont encore aujourd'hui. Mes cousins, mes cousines, qui sont des chantres de l'Éternel, qui sont pasteurs aujourd'hui, qui dirigent des ministères. J'ai des petits cousins, petites cousines qui sont là, qui chantrent aussi, qui exercent le ministère, qui prêchent la parole. Je vois ça, c'est une bénédiction énorme. Et je me dis, c'est pas réservé qu'aux poulains. Non, pas du tout. En fait, il faut avoir cette mentalité de se dire qu'à partir de moi, de vous, dans votre maison, les choses peuvent changer. Amen. Il peut y avoir un shift. Mm-hmm. Même si les parents, les grands-parents ont été vraiment contre Dieu même, je dirais comme ça, ça ne dérange pas, parce qu'à partir de vous, il peut y avoir des générations qui vont être bénies, qui vont entendre le vrai message de l'Évangile et qui vont vouloir suivre Dieu, parce qu'il va avoir goûté à la vraie vie avec lui. Et ça fait toute la différence. Je pourrais prêcher une heure, Nadine, mais je vais arrêter parce que j'avais plusieurs autres points.
Ah, oh, mais je vais te les laisser, te les donner. C'était très beau et très inspirant, Frank.
Je vais continuer dans ce cas-là. C'est une blague. Non, mais je vais continuer pour de vrai. Quand que je pense à... Les gens, souvent, vont se dire... les Américains aux États-Unis, mais en fait, je me suis posé la question, et même pour ma propre famille, qui a eu un tel impact. Après ça, c'est certain que les appels aux cinq ministères, c'est souverain, ça vient de Dieu. Il y en a eu beaucoup dans notre famille, merci Seigneur. Mais je me dis que la différence avec ceux qui ont été dans la religion, peu importe c'était quoi le nom, la dénomination, le truc, c'est qu'ils étaient justement, je le dis comme ça dans mes termes, dans de la religion. Et ils n'avaient pas goûté à la vérité de la parole de Dieu. Non. Quand on voit des générations, 4, 5, 6, 7 générations qui suivent le Seigneur, c'est pas juste à cause que ça leur est tombé dessus. C'est qu'ils ont goûté à la vraie chose. Ils sont nés de nouveau. Ils ont vécu l'Esprit en eux qui opère une transformation qui se vit à l'extérieur. Ils vivent le fruit de l'Esprit et ils vivent la douceur. Et ça se transmet dans l'amour. Voilà, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et quand c'est vécu comme ça, c'est pour ça que oui, aux États-Unis, c'est vrai que la nouvelle naissance, elle est prêchée depuis longtemps. Ailleurs dans le monde aussi, on va le dire, mais je veux dire des familles entières, et même des peuples qui peuvent vraiment, des nations qui marchent, entre guillemets, avec le Seigneur, c'est-à-dire beaucoup de gens dans ces peuples-là sont sauvés, c'est parce que la vérité a vraiment été prêchée. Mm-hmm. Et c'était pas sous un joug religieux. J'essaie de faire, il faut faire la part des choses, mm-hmm. Vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'on voit dans certains pays, dans certaines régions, qu'il y a vraiment, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Certainement, il y a une action du réveil de l'Esprit de Dieu, mais justement, c'est parce que la vérité était prêchée. Et quand dans une famille, c'est vécu comme ça doit être vécu, ben, souvent, ça va faire boule de neige et les générations vont être impactées.
Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis, Frank. Et j'aimerais dire aussi qu'on transmet toujours quelque chose. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est que on va toujours transmettre quelque chose à la génération future. Nos parents vont toujours nous transmettre quelque chose. Et si vous êtes là, vous nous écoutez aujourd'hui, certainement il y a quelque chose que vous allez transmettre à vos enfants. Maintenant, cette chose-là, c'est quoi? Je le dis parce que je vois, quand je vois par exemple au Cameroun, comment la tradition se transmet vraiment de génération en génération. Et tu vas voir que les choses que les gens font aujourd'hui, c'est exactement parce que leurs arrière-grands-parents, leurs parents l'ont fait et ça se reproduit après les générations. C'est à nous maintenant de nous dire, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment transmettre? Comme Frankie disait, est-ce que je suis plus intéressée à transmettre la culture de façon générale ou alors je veux vraiment transmettre cet héritage de vie au final à toutes les personnes qui viennent après moi. Ça, je pense qu'on doit se positionner en tant qu'enfant de Dieu sur cette question-là et décider que je vais éduquer mes enfants dans cette voie qu'ils doivent suivre, comme la Bible nous dit, pour qu'ils ne se détournent pas. Si on laisse juste la société faire, on laisse les choses aller comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Mais quand la Bible dit que l'enfant est comme une flèche dans la main d'un archer, mais c'est parce que l'archer, il envoie la flèche dans une certaine direction. Ça veut dire qu'on doit donner une direction à nos familles, à nos enfants. Et ça, c'est le rôle de chaque parent de le faire et de dire, oui, comme Frank disait, peut-être que mon père, ma mère n'ont pas été chrétiens. Peut-être que je suis même le premier dans ma famille à être chrétien, mais je décide que dans ma lignée, je vais transmettre quelque chose et ce sera la vraie foi, pas une religion, mais vraiment la vraie foi en Dieu et c'est ça le vrai héritage.
J'ai tellement aimé ce que le point que tu as dit, du point de la transmission, c'est qu'on transmet toujours quelque chose. Et des fois, on est préoccupé à transmettre un héritage, des maisons, des voitures, un compte bancaire, peut-être voilà une retraite, un fonds monétaire, des choses pareilles. Mais Frank l'a dit, c'est que le vrai héritage, c'est un héritage de foi, c'est un héritage qui parle, c'est un héritage qui englobe tellement de choses, et c'est un héritage qui va se perpétuer, en fait. Peut-être que l'argent, un héritage d'argent, mais au bout de deux générations, s'il y a une mauvaise gestion, ben peut-être ça va se terminer. Mais un héritage de foi, de la rencontre véritable avec Dieu, de ce que vous allez rentrer dans votre lignée, on le voit dans la parole, voilà, des enfants qui ont bénéficié, voilà, de ce que leur père ont fait, etc. Et Frank était la personne par excellence pour faire cette pensée. Parce que oui, c'est quatre générations d'hommes de Dieu et on voit comment même toute la famille est bénie parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je marche avec Dieu de façon tellement profonde, intègre, que ça rentre, toute ma maison rentre là-dedans. » Et vraiment, c'est l'encouragement qu'on veut vous faire. La bénédiction, elle est disponible. Vous, positionnez-vous pour faire rentrer la parole de Dieu, la vie de Dieu dans votre lignée, que les enfants après vous, que dans quatre générations, on peut dire mon arrière-arrière-grand-mère, nous, on sert Dieu parce que notre arrière-arrière-grand-père, voici ce qu'il a fait. Et ça s'est transmis comme ça. Et voilà, et on voit des gens, voilà, ils sont bénis, c'est la bénédiction, en fait, c'est les prières des générations précédentes qui sont en train de récolter aujourd'hui. Et peut-être vous pouvez être cette première personne et vraiment vivre une vie de foi qui est tellement pleine, entière en fait. C'est pas quelque chose de superficiel pour que ça ne parte pas quand vous ne serez plus là, mais tellement entière que ça se découle en fait sur les générations à venir. Et je vais vous partager notre verset. Tu voulais dire quelque chose, Aurélie? D'accord. Je vais vous partager notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans Acte 16, le verset 31. La parole dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est cette parole que Paul va dire à ce geôlier qui, alors qu'il va rencontrer le Seigneur, ben, il va tout simplement faire entrer la bénédiction dans sa lignée. J'imagine cet homme-là, il est rentré chez lui à la maison, il a dit à sa femme et ses enfants, « Vous ne devinerez pas ce qui est arrivé aujourd'hui. » Et c'est toute sa famille qui a été sauvée. Alors vraiment, on veut vous encourager à faire entrer la bénédiction générationnelle dans votre famille en croyant au Seigneur Jésus. Et lorsqu'on parle de bénédiction, on pense aussi à la malédiction. Et la parole va en parler. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, justement, elle va nous dire que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Car, je vais vous lire le verset Galates 3:13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ce verset? Comment comprendre ce verset? Le pasteur Christine Beumier nous l'explique dans la rubrique « Réponse d'experts ».
Bonjour et merci beaucoup de m'avoir sollicité pour répondre à cette question tellement importante. Comment comprendre Galates 3:13? Nous relisons ce passage. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Alors, pour rappel, la loi, c'est cette portion de la parole de Dieu que nous trouvons dans les 5 premiers livres de Moïse, donc de Genèse à Deutéronome, et au travers desquels chaque étape de la vie du peuple d'Israël est guidée. Et notamment dans la loi, nous avons ce fameux chapitre 28 de Deutéronome qui nous parle des bénédictions et des malédictions. Alors, on va commencer par les bénédictions. Il nous dit au verset 1, « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros, de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Et on peut continuer comme cela. Il y a vraiment toute cette liste de bénédictions que je vous invite à lire d'ailleurs, car elles décrivent la volonté de Dieu pour notre vie. Sous l'Ancienne Alliance, les bénédictions de l'Éternel étaient soumises à conditions. Elles étaient conditionnelles. Et pour en jouir, il était impératif d'obéir à l'Éternel et de mettre en pratique tous ses commandements, tous T-O-U-S, sans en oublier aucun. Et bien sûr, cela était impossible et personne sur Terre n'y est jamais arrivé. On a beau essayer, beaucoup ont essayé, mais dans le cœur, il y a vraiment ces choses qui nous empêchent d'obéir pleinement à l'Éternel. Et Paul nous dit justement dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 9, « En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste. » Pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et Paul va continuer au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Donc on voit ici que c'est vraiment impossible de répondre et d'obéir à Dieu parce que le péché est attaché à nous, mais la loi est là pour nous montrer ce que Dieu désire et ce que nous sommes incapables d'accomplir. Mais il y a aussi une sentence, on a vu les bénédictions tout à l'heure, pour ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, mais voici ce qui se passe pour ceux qui ne le font pas. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 58, nous dit « Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera, toi, et ta descendance de fléaux extraordinaires. Il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans le livre de cette loi. » Et là aussi, il y a toute une série. Nous voyons que les conséquences n'atteignent pas seulement la personne qui désobéit, mais aussi sa descendance. L'Éternel te frappera, toi et ta descendance. Il y a des conséquences à nos actes, et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Et on voit particulièrement dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, et beaucoup les connaissent presque par cœur, sauf peut-être le deuxième que nous allons lire maintenant. Donc on le trouve dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », ça c'est clair. Verset 4, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Et voilà, Dieu est un Dieu qui est bon, mais il y a des péchés qu'il ne laisse pas impunis, et notamment ici, il parle de l'idolâtrie. Il parle de prier, de se confier dans des objets, des statues ou des médailles, des talismans, tout ce qui peut exister et qui vole, je vais dire, notre confiance. Tout ce dans quoi nous nous confions au lieu de nous confier en Dieu. Et ces pratiques, je pense que nous tous, ou nos parents, nos grands-parents, les ont pratiquées, n'est-ce pas, et ont attiré ainsi sur nous, sur eux et sur nous, la malédiction. Et nous ne pouvons donc pas baser notre salut sur le respect de la loi, car tous, nous l'avons transgressé. Et Paul nous rappelle dans Galates 3:10, « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Autrement dit, tous ceux qui se confient dans leurs propres œuvres et dans leur façon humaine de respecter la loi restent sous la malédiction. Il n'y a pas d'issue si on se confie en nous, si on veut arriver à plaire à Dieu avec nos propres forces. Mais la bonne nouvelle, et c'est une excellente nouvelle, c'est que Jésus est venu, lui, pour accomplir la loi. Il est venu pour la finaliser. En lui, toute la loi est accomplie, toute la volonté de Dieu est satisfaite. Jésus, qui n'a jamais transgressé un seul commandement, qui était saint, il a pris sur lui toutes les conséquences de nos transgressions. Et nous voyons ça dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, à partir du verset 4. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. En raison de nos fautes et de celles de nos parents, nos grands-parents, nous étions voués à la malédiction. Mais Jésus-Christ nous en a rachetés et il a été maudit à notre place. Sa mort sur la croix n'est pas un accident de l'histoire. Il fallait qu'il soit pendu au bois pour prendre sur lui notre malédiction. C'est une des raisons pour lesquelles il est venu à cette époque où le sacrifice ultime était d'être non seulement pendu au bois, mais cloué aussi sur une croix de bois afin que son sang soit versé pour nous racheter. Il avait à la fois la malédiction d'être pendu au bois, mais aussi son sang a coulé pour nous racheter de nos péchés. Alléluia. Et en plus, il a été crucifié en dehors de la ville. Alléluia. Il a ainsi accompli pleinement ce que l'Écriture dit dans Deutéronome, chapitre 21, les versets 22-23, « Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. » Donc Paul nous rappelle cela et il nous dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Verset 14, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, écoutez bien, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis en Jésus-Christ. » Et j'aimerais terminer en vous lisant ce même passage, mais dans la traduction de la Passion. Pourtant, le Christ a payé le prix fort pour nous libérer de la malédiction de la loi. Il l'a complètement absorbée en devenant malédiction à notre place, car il est écrit « Quiconque est pendu à un arbre est doublement maudit ». Jésus, notre Messie, a été maudit à notre place, et ce faisant a dissous la malédiction de nos vies, de sorte que toutes les bénédictions d'Abraham peuvent être déversées sur les croyants, même non-juifs. Et maintenant, Dieu nous donne la promesse du merveilleux Saint-Esprit qui vit en nous lorsque nous croyons en lui. Et ça, c'est vraiment la bénédiction, c'est la présence de Dieu en lui. En lui, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et elle se manifeste chaque jour dans notre vie par sa grâce, à cause de son sacrifice. Alors, soyez bénis et mettez en lui votre confiance.
Amen. Quelle belle réponse d'expert. Merci beaucoup, pasteur Christine. C'était vraiment intéressant.
Oui, oui, super.
Ouais,
merci,
vraiment,
pasteur Christine.
Vraiment, j'ai beaucoup appris. Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Et je vous invite aussi à la réécouter. Je crois que c'est beaucoup d'informations comme ça. Et vous asseoir et réécouter cette réponse d'expert. Je crois que ça va vous aider aussi à comprendre notre position en Christ. La bénédiction nous appartient. Nous avons été rachetés à la croix. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, bénéficiant de toutes les bénédictions spirituelles. Et on continue cette émission avec Aurélie dans la rubrique témoignages.
Alors, notre témoignage nous vient de la RDC et c'est une dame qui nous dit qu'elle est mariée depuis 6 ans et elle est mère de 2 enfants. Elle dit que ça faisait 3 mois qu'elle avait commencé à faire chambre à part avec son mari. Déjà depuis plusieurs années, son mariage était en difficulté. Et elle dit que malgré tous les efforts que son mari faisait pour se repentir, mais elle ne lui laissait tout simplement aucune chance. Elle nous explique « J'avais coupé tous les ponts de communication. Je sentais au fond de moi que je ne l'aimais plus et que ça ne valait plus la peine de rester mariée. Je me cachais dans l'amertume de tout le mal qu'il m'avait fait et ruminais cela à longueur de journée. » Et un jour, alors qu'elle a écouté la semaine des miracles, c'est le pasteur Eladj qui était l'invité. C'était le Dieu qui bénit ma famille. Et là, elle dit que pendant qu'elle est en train d'écouter cette émission-là, elle dit qu'elle a eu comme une espèce de discernement où le doigt était pointé sur tous les mensonges que Satan essayait de faire rentrer en elle parce qu'elle se disait que le divorce, c'était la seule issue. Donc, c'est comme si elle a vu ça à la lumière. Et elle dit, j'avais comme un voile sur mes yeux malgré les excuses présentées par mon mari. J'avais perdu tout espoir et ne voulais plus donner une autre chance à notre mariage. Donc, c'est pendant le live que cette lumière s'est faite comme ça. Et elle dit que Dieu a rebâti les ponts de la communication. Il a enlevé ce voile sur mes yeux, a guéri mon cœur. Et j'ai décidé de donner une autre chance à mon mariage et de laisser le Saint-Esprit guérir mon mariage et redonner la vie à tout ce qui était mort dans mon mariage. Elle nous explique que ça faisait un moment qu'elle priait justement pour avoir de la clairvoyance par rapport à cette situation-là et que lors de ce live, elle a obtenu sa guérison, elle a obtenu une réponse concrète de la part du Seigneur. Donc voilà une famille qui a été, on va dire, restaurée. Et on bénit le Seigneur parce qu'on croit que sur la base de ce témoignage, mais les enfants pourront aussi grandir avec les deux parents et ça aussi, c'est une bénédiction.
C'est une bénédiction. Amen. Merci, gloire à Dieu, vraiment.
J'aimerais prier, Nadine,
oui,
avant la fin de l'émission.
Je sais, je me rappelle. Ouais. J'aimerais juste dire à vous tous qui avez vécu quelque chose de fort, en tout cas à travers des émissions EMCI, ne manquez pas de nous envoyer votre témoignage à emcitv.com/témoignage, remplir le formulaire. Et avant de terminer l'émission, oui, Dieu aime les familles et Frank va prier pour votre famille, pour la bénédiction dans votre famille. Vas-y, Frank.
Seigneur, on veut te remercier parce que tu ne fais d'aucune exception. Tu ne fais pas d'exception d'une famille ou d'une autre. Et on veut te remercier parce que tu es en train d'élargir la pensée de beaucoup de personnes en ce moment. Tu es en train de faire voir les choses différemment. Je prie qu'il puisse y avoir, comme ça a été dit, une intentionnalité dans le fait de transmettre la foi, qu'on puisse être à la recherche de laisser cet héritage qui est tellement précieux. Je prie que tu puisses sauver les enfants, Seigneur, dans les familles de ceux qui regardent en ce moment. Que si les enfants ne sont pas encore venus à toi, je prie que cette semeur qui a été plantée en eux, qu'elle puisse porter un fruit. Même s'ils sont rendus adultes, Seigneur, tu as dit que lorsqu'un enfant est instruit, quand il va être plus vieux, il ne va pas s'en détourner. Tôt ou tard, Seigneur, et je veux te remercier parce que par ton esprit, tu fais une œuvre, tu agis dans leur vie. Et Seigneur, je prie que il y ait la foi qui soit suscitée dans le cœur des parents, que leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations après eux vont être bénis. Je prie qu'ils croient pour cela. Je prie qu'ils déclarent avec foi ce que leurs yeux vont voir, même après qu'ils aient quitté cette terre. L'héritage de la foi va demeurer. On te remercie, Seigneur. Amen.
Amen, amen. Merci, Frank, pour cette prière. Oui, nous le croyons. Nous le croyons que le Seigneur va visiter votre famille, par vos enfants même viendront au Seigneur. Votre lignée tout entière sera consacrée à l'Éternel. Amen, amen, amen. Et on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Sois un chrétien profond ». Et Omer sera là pour un conseil du coach sur comment développer de la profondeur dans la parole. Alors, on se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cocorico
avec Innocent.
Some days when
I'm dreaming, I think of how far I have come. All my lives led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. All that I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. Children of the sky. Cannot give up hope, though there are storms within my seas. Won't turn back when I lack. Sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves. Just wanted to raise up to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. When we look back,
cause I
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Innocent. Parole du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Romains 8, verset 29. Vive la créativité. Bonjour à tous. Puisque Dieu est à la fois créateur et rédempteur, je dois être semblable à son image. Et pour ressembler à mon créateur, il me faut davantage de créativité. Quand je mets mon imagination au service des objectifs de Dieu, je fais ce que lui-même réalise le mieux et ce qu'il aime le plus. Et il en tire une grande fierté ainsi qu'une grande joie. Tout comme chacun admire la créativité de ses propres enfants, Dieu honore la créativité qui est en moi. Combien de fois les psaumes m'invitent-ils à entonner un chant nouveau ? Le commandement de créer y est répété plus d'une demi-douzaine de fois. Plus je découvre Dieu, plus je l'aime. Et plus je l'aime, plus je cherche de nouvelles façons d'exprimer mon amour. Peu de gens se considèrent comme créatifs, car ils ont tendance à limiter la définition de la créativité. Pour eux, elle est liée aux arts, aux inventions, aux initiatives, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La créativité n'est pas l'apanage des artistes. Elle est au cœur de tous les aspects de la vie. Au sens le plus large, tout ce qui a recours à l'imaginaire correspond à la créativité. Avant ma conversion, mon imagination servait parfois à des fins mauvaises. Mais lors de ma nouvelle naissance, elle a été rachetée pour être employée à la gloire de Dieu. Si Dieu est infiniment créatif et que vous n'êtes pas seulement créé à son image, mais appelé à lui ressembler, alors la créativité n'est pas une option. C'est une preuve de maturité spirituelle.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Dis-moi comment, toi comment tu fais avec tes défauts et ce foutu reflet. Le regard des gens, toi tu dis tu t'en moques. Paraît que c'est l'époque, que ça passe avec le temps. Les hauts, les bas, les moments de bas, on se connaît tellement, on est presque amis. Dis tu fais quoi quand ça tourne trop fort pour arrêter le bruit. J'ai caché des larmes, arraché des rires, mais les monstres qui parlent me du silence, le bruit du silence. Au revoir les doutes, les j'y arriverai pas, et tout ce que ça me coûte de ne pas croire en moi. Au revoir les on-dit, au revoir les on doit. Les complexes qu'on enfouit et cette jalousie face à celle qu'on n'est pas. Les hauts, les bas, les moments de bas, on se connaît tellement, on est presque amis. Dis, tu fais quoi quand ça
du silence. Le bruit du silence. Ça tourne trop fort pour arrêter le bruit. Dis, tu fais quoi quand ça tourne trop fort pour arrêter le bruit?
Dites, comment qualifieriez-vous une action généreuse? Il y a quelque temps, je lisais une publicité visuelle pour le don de plasma qui associait le fait de donner aux notions de normalité et de plaisir partagé avec une communauté. Au-delà de l'aspect physiquement vital de cet appel à dons spécifiques pour des milliers de personnes, le parallèle avec la mobilisation régulière des donneurs insistait sur la prise de conscience de cette nécessité de donner au-delà des a priori, des peurs ou de toute autre excuse qui pourrait empêcher cet engagement altruiste, désintéressé et dont la seule motivation est de répondre à un besoin dont on sait être la solution. Nikola Tesla, inventeur et ingénieur américain d'origine serbe, connu pour son rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif, a pu dire « L'argent ne représente pas la valeur que les hommes lui ont attribuée. Tout mon argent a été investi dans des expériences avec lesquelles j'ai fait de nouvelles découvertes permettant à l'humanité d'avoir une vie un peu plus facile. » Être généreux, Johan, c'est aussi simple que ça. Et si aujourd'hui, je réalisais que je fais partie de la solution pour changer le monde? Comme pour toute avancée, il suffit d'un premier pas, d'une première fois, d'une première action généreuse, d'un premier don.
Far FM, la radio autrement.
I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, I woulda, shoulda, or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning old things new, gray skies blue. Hear the church say, and won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Yeah, it's a good day, no, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things to gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. It's a good day.
Seem like a burden. Is there anybody else that feels a little less themselves? I wanna wake up and know that I'm worth it. Cause some days I feel I'm too far gone, but you lift me up when I can't hold on. But there's beauty in the dark before the dawn. I'll always remember the way that you love me. You hold me together. How could I give you up? You give me a reason to keep on believing, and I'm never leaving. How could I give you up? How could I give you up? Only one way to say that I'm sorry. That we all need somebody. Is there anybody else that feels like a shadow of themselves? I'm not afraid when I know you're beside me. I'll always be. I feel I'm too far gone, but you lift me up when I can't hold on. But there's beauty in the dark before the dawn. I'll always remember.
Lundi 29 avril, vous écoutez Phare FM, c'était Kevin Queen avec Give You Up sur Phare FM. Très bon matin.
Expérimentez la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
La lettre de Jacques, du moins c'est son nom en français. Si vous regardez la version grecque, vous verrez que son nom est Iakobos, qui se traduit en hébreu Yaakov. C'est pourquoi la plupart des traductions antiques et modernes traduisent son nom par Jacob. C'est donc ainsi que nous l'appellerons dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs Jacob dans le Nouveau Testament. Deux d'entre eux font partie du cercle intime de Jésus, les 12 disciples. Mais cette lettre a été écrite par Jacob, le propre demi-frère de Jésus. Nous avons découvert l'histoire de ce Jacob dans le livre des Actes et aussi dans les lettres de Paul. Après que Pierre ait quitté Jérusalem pour aller fonder de nouvelles églises, le demi-frère de Jésus, Jacob, a vu son rôle prendre de l'ampleur au point de devenir le chef de l'église mère de Jérusalem, majoritairement composée de juifs messianiques ou chrétiens. C'était la toute première communauté chrétienne et nous savons que les 20 années où Jacob en était le dirigeant ont été particulièrement rudes. Une famine a entraîné une grande pauvreté dans la région et les dirigeants juifs de Jérusalem s'en sont pris aux juifs messianiques devant les tribunaux.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Phare FM, l'émotion partagée.
Phare FM également la radio. Autrement, j'ai envie de vous souhaiter une belle semaine. On la démarre ensemble en musique, certes. Et puis dans 6 minutes, on va retrouver l'actualité et puis votre météo. En attendant, voici Montmartre, Félixita sur Phare FM. Pourquoi tu pars?
Ma fenêtre, le soleil, oui. Il y a un cœur. Tristement seul, posé en contemplant la ville. Pourquoi tu pars? Comme à chaque nuit, les yeux ouverts, je pense à toi. Et sur ma montre, chacune des heures défile. Pourquoi tu pars? Toutes les promesses de mon
je pleurerai en pensant à toi. Pourquoi tu pars?
Pourquoi tu pars?
S'endormiront toutes les choses à deux qu'on aurait pu se dire, à deux se dire. À côté des aiguilles d'un rêve, elles attendront toutes les heures à deux qu'il nous restait à vivre, restait à vivre. Toutes les promesses de mon amour iront avec toi, tu m'oublieras. Tu m'oublieras. Sur le quai de la gare, je pleurerai en pensant à toi. Pourquoi tu pars?
Pourquoi tu pars?
Tu pars.
Silence, and in the naked.